n'est pas historique de notre présence ici, c'est l'importance qui a été soulignée par Rabin ce matin de nouveaux modes d'expression, les tags, Internet, Facebook, Twitter, etc., les graffitis. Et donc c'est à ces nouveaux modes d'expression et à leur signification, et peut-être aussi à travers cette nouveauté, cet inattendu, à une réflexion sur le statut même du littéraire, que va nous amener, la réflexion de cet après-midi. Donc je vais donner la parole en premier à Sarah Vera, qui est à la fois journaliste à France 24 et doctorante à l'Université Paris 3, où elle est en train de faire une thèse sur
autobiographie et fiction dans la littérature engagée.
Voilà, et l'intitulé de sa communication sera donc Graffiti, art de rue ou art à l'assaut de la rue tunisienne et égyptienne post-printemps arabe. Ça va, je te donne la parole.
Merci. Merci à vous d'être là. En fait, donc effectivement, je suis venue ici avec deux casquettes. C'est d'abord en tant que journaliste en fait, que je me suis intéressée au nouveau phénomène des graffitis. C'est d'abord en mai 2012, j'ai travaillé sur le sujet en interviewant entre autres des artistes graffeurs. Et en fait, à l'époque, c'était encore un balbutiement, hein, les graffitis. C'est petit à petit devenu un mode d'expression assez répandu en fait, dans le milieu de la jeunesse tunisienne. Et quelques mois plus tard, je me suis rendue au Caire et j'ai fait le même constat là-bas. Donc il y a eu un désir assez évident de mettre les deux expériences en parallèle, surtout qu'il s'agit des deux pays, les deux premiers pays en fait de ce qu'on appelle le printemps arabe, avec ces guillemets que je ne suis pas la seule à mettre ici, puisque nombre de mes collègues ont marqué une certaine distanciation par rapport à cette dénomination. Donc justement, comme dans ce processus de printemps arabe, il s'agit pas tellement d'un mouvement de révolution, mais plus d'un mouvement de révolte, en fait, qui est inabouti, inachevé. Mais dans ce processus-là, ce n'est pas tant un bouleversement qu'une brèche qui a été ouverte dans des systèmes politiques en place. Et le graffiti, en tant que mode d'expression artistique subversif, a tout naturellement trouvé sa place, justement, dans ce contexte et dans cette brèche. Donc, le graffiti est un mode d'expression artistique qui a vu le jour aux États-Unis dans les années 70 et qu'on a appelé au début street art, donc l'art de rue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas appelé peinture ou tag ou dessin de rue, mais art, comme si c'était l'art de rue par excellence. Et c'est justement donc d'où l'intitulé que j'ai choisi, donc le titre que j'ai choisi pour ma communication. C'est justement l'aspect de l'espace public, de la rue, que j'ai voulu mettre en exergue en parlant d'une réappropriation sociale et culturelle de l'espace public. Donc la Tunisie comme l'Égypte sont en fait, nous savons tous, nous sommes toujours certains, deux états policiers. Donc le pouvoir en place la rue appartenait au en fait, et le pouvoir était présent dans la rue, que ce soit par ses représentants, donc les forces de l'ordre, la police, en uniforme ou en civil, et aussi il y avait une présence idéologique et iconographique du pouvoir, donc à travers les posters géants, les images de Ben Ali, de Al-Belsi, de Hosni Moubarak, etc. Donc, il y avait ce côté de culte de la personnalité, et puis les slogans du parti au pouvoir, qui chantaient les louanges du régime, etc. Donc, il y avait en permanence une agression visuelle dont était victime le citoyen, ce citoyen qui, lui, par contre, ne pouvait pas, n'avait pas la possibilité d'exprimer sa citoyenneté, justement, dans la rue. Alors, après le 14 janvier, c'était la Tunisie, après le 11 février pour l'Égypte, pendant ce processus-là, la réponse des graffeurs... Donc la réponse des graffeurs a été justement de prendre la rue, en quelque sorte comme on prendrait le mec qui... avant même d'en venir au message qui est colportée par ces graffitis. Il s'agit d'abord de marquer une présence en laissant une trace visuelle de son acte, d'un acte de création. Donc il s'agit de dessiner et de signer. Donc les graffitis, donc, là je vous donne quelques exemples. Donc par exemple là, on a la signature de Al-Delkaf, c'est un des collectifs, c'est un collectif tunisien de jeunes graffeurs. Donc Al-Delkaf qui veut dire littéralement les hommes de la caverne, ou les gens de la caverne. Donc, je reviendrai sur le choix de ce nom plus tard. Il y a aussi, par exemple ici, on a le collectif Zouaoula. Là aussi, on a leur signature, donc le Z de Zouaoula, et puis le reste qui est écrit en arabe. Donc il y a toujours, voilà, on marque sa présence par... on marque le territoire et on affirme sa citoyenneté par cette présence et par cette identité, même si elle est sous pseudonyme. Parce que ce qui est quand même... On ne connaît pas les noms individuels, par exemple, on connaît très peu de noms individuels de graffeurs, mais on connaît les collectifs. Et donc cette présence est marquée même de manière clandestine, puisque beaucoup de ces opérations se font de nuit. Les graffeurs jouent souvent au chat et la souris avec la police, et ils restent toujours quelque part dans l'illégalité. On sait qu'en Tunisie, par exemple, on a même vu le collectif Zouaoula, justement, qui est passé devant les tribunaux. Même chose en Égypte, on n'est pas resté que justement sur la Tunisie. Sur la place Tahrir et dans l'avenue Mohamed Mahmoud, les graffitis ont été maintes fois, à maintes reprises, repeints par l'armée. Et parfois, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont même détruits par les citoyens eux-mêmes. Ce n'est pas que le pouvoir qui détruit les graffitis, c'est le cas notamment à Mansoula, par exemple, en Égypte, où des citoyens voyaient ça comme une sorte de vandalisme, le fait de dessiner ou d'écrire sur les murs. C'est-à-dire, si on est vraiment dans l'inattendu, c'est aussi vraiment une forme d'art pour eux qui est complètement nouvelle. Donc on a d'un côté la réappropriation de cette sociale, de cet espace public, d'un autre, on peut parler aussi d'une réappropriation de la culture et plus généralement de l'expression, de l'acte de s'exprimer. On dit souvent que tout est politique, on sait que c'est particulièrement vrai en temps de dictature, parce qu'il y a une main basse en fait, du régime en place, sur tout ce qui concerne la culture et l'éducation, qui deviennent en fait des terrains de propagande. Donc on a toujours la culture officielle ou l'éducation qui devient de la propagande de l'État. Donc cette culture officielle, après ces mouvements de révolte, a été remplacée par une double prise de parole, celle du citoyen et celle de l'artiste. Et le graffiti est devenu à la fois un moyen de médiation, les graffeurs étaient devenus comme des passeurs de parole, donc ils font la médiation entre le citoyen et l'espace public, l'agora, c'est aussi des œuvres artistiques, donc qui permettent de donner de la parole à l'artiste lui-même. Donc pour ce qui est du premier volet, donc les revendications, là on parle de Haqq Shahid, donc le droit au martyr, là c'est toujours Zouaoula, donc ils disent donc le mot de c'est le citoyen qui est toujours dans l'attente et dans la demande, qui demande, qui est toujours demandeur de droit, etc. Et alors qu'il y a en face un jeu de pouvoir. Donc là, on est en Égypte, sur la rue Mohamed Mahmoud, pareil, les images, les photos des martyrs de la Révolution. Donc ça, c'est une comparaison, enfin une métaphore par rapport au jeu de cartes. Donc on demande qu'on rabatte les cartes de nouveau et qu'on redistribue les cartes, en fait. Donc ça, c'est pour les revendications sociales, rappel pour les martyrs, la mémoire des martyrs, etc. Et puis il y a aussi des revendications, par exemple, d'ordre, on va dire, plus féministe. Là, c'est les graffitis. Donc ça, c'est la partie que j'aime beaucoup, c'est « Kela Ahla ». Comme ça, c'est mieux, avec un point d'interrogation, donc une femme avec des moustaches. Et en Égypte, on sait bien, il y a le problème, le très très grave problème du harcèlement sexuel. Du coup, les graffitis féminins prennent là-bas tout leur sens. Là, pareil, on a donc le croissant et la croix, donc pour appeler à plus de tolérance religieuse. Là, c'est la photo, donc l'image de Moubarak avec Fener al-Batash Melia et Harami. Donc, ils sont les 14 milliards voleurs, etc. Donc, ça, c'est pour les revendications, on va dire, qui concernent tout le monde, enfin le citoyen. Et d'un autre côté, il y a aussi cette idée de sortir l'art des galeries pour le mettre à la disposition de tous dans la rue. Donc on est dans un processus de démocratisation en fait de la culture. Ce que je voulais souligner ici aussi, c'est que ceux qui font ces graffitis, tous, mais une bonne partie d'entre eux sont des artistes qui ont fait l'école des beaux-arts, ils ont une formation artistique, ils ont une formation d'artistes plasticiens, ils sont pas, voilà, ce n'est pas juste de simples amateurs du genre qui s'y mettent, qui se sont mis par hasard. Donc ces artistes-là prennent la peine justement de s'adapter ou d'essayer de s'adapter à leur public. Je vais juste me permettre de vous citer un bout d'interview justement que j'ai eu avec Fadel Suleiman. Elle appartient au collectif égyptien Women on Walls. Donc c'est un groupe de femmes en fait qui font des graffitis, qui dessinent en Égypte, un peu partout, dans les villes égyptiennes. Elle dit « Mon public peut être n'importe quel citoyen », donc elle est artiste plasticienne à la base, « Mon public peut être n'importe quel citoyen, dans mes tableaux je peux faire des allusions, faire passer des messages de manière indirecte, avec des métaphores par exemple, mais dans les graffitis je dois être sûre que tout le monde arrivera à me comprendre du premier coup d'œil. » Sachant que cette démocratisation de l'art peut parfois être forcée, une sorte de terrorisme poétique, si on veut, dans la mesure où on attend plus que le citoyen manifeste son intérêt pour la culture, pour l'art, c'est non seulement l'art qui va à sa rencontre, mais presque qui s'impose à lui. Une autre femme, donc Angevalarda du même collectif, qui dit « Ce qui nous intéressait dans le graffiti, c'était son accessibilité. Dans la rue, les passants peuvent s'arrêter, discuter, échanger avec les artistes et n'ont pas besoin d'aller dans un espace clos comme un musée ou une galerie d'art pour réfléchir sur une œuvre. Tout le monde reçoit le message, même ceux qui ne le souhaitent pas forcément. » Donc même des sujets qui dérangent, on ne va pas attendre à ce qu'ils soient posés dans les médias ou dans l'assemblée ou dans un lieu, une institution officielle. C'est vraiment le sujet qui s'impose à la vue du citoyen. Ceci pour la réappropriation culturelle et artistique. Donc cette culture, en fait, va finir par devenir aussi un patrimoine. Là, j'insiste sur le mot parce que c'est un mot qui a notamment été utilisé de manière très consciente après le sit-in de Qasba 2, donc en Tunisie. C'était, si je situe bien, en juillet 2011. Vous corrigerez si je me trompe. Et donc, dans la nuit, en fait, la dernière nuit du sit-in, l'armée est venue, elle a repeint les murs. Donc, la place de la Casbah, c'est la place du gouvernement. En fait, c'est là où il y a le siège du premier ministère et de nombreux de ministères. Et dans la nuit, après le sit-in, l'armée est venue, elle a repeint les murs de blanc. Donc, il n'y avait plus de graffiti. Et il y a eu des pétitions, notamment des pétitions en ligne, qui disaient voilà, les graffitis de la Casbah sont notre patrimoine. Et ça a été revendiqué comme une sorte de mémoire collective. Du coup, on en est vraiment dans l'art contemporain engagé, sachant qu'un des artistes du collectif Adelkaf, par exemple, a textuellement employé ce mot-là, art contemporain engagé. Donc c'est vraiment conscient comme démarche. Et justement, pourquoi j'ai insisté sur le mot patrimoine, parce qu'en plus la réappropriation de l'espace public, de la culture, il y a aussi une réappropriation de la mémoire, donc de l'histoire, et donc de l'identité et des symboles nationaux. Juste après donc, les soulèvements qui ont eu lieu, on a beaucoup parlé, un des termes justement qui est beaucoup revenu, il y a le terme de souveraineté. Souveraineté nationale, d'ailleurs tout simplement avec le fameux slogan « Achar Yolid », le peuple veut. Donc, c'est vraiment la volonté du peuple qui s'exprime. Et donc cette souveraineté longtemps espérée, enfin c'est une souveraineté donc, espérée et retrouvée, qu'on espérait retrouver, et du coup, d'ailleurs il y a eu pas mal de références à l'indépendance, à la colonisation. On se rappelle même les premières semaines par exemple qui ont suivi les soulèvements, il y a même eu certaines petites phrases, etc., par rapport à la France. Donc, on est quand même revenu dans vraiment un certain contexte, comme si on revivait l'indépendance de nouveau. et du coup, il y a eu aussi cette volonté de d'échapper à la propagande officielle, et donc d'échapper à l'histoire officielle. Vous en parlez donc hier, quand on parlait justement d'une histoire écrite par les régimes de Bourguiba et Benani. Donc c'est la remise en question des discours formatés avec cette conviction qu'on nous a toujours justement caché la vérité historique. Et du coup, il fallait proposer non seulement une nouvelle grille de lecture en fait du présent de manière synchronique, donc un nouveau gouvernement, un nouveau mode, une nouvelle politique, de nouveaux modes de gestion du pays, voire de nouvelles institutions. Et puis aussi, sur l'axe aussi de diachronie, donc la véritable histoire, mettre la lumière sur certains événements de l'histoire, etc. Cela a conduit, donc, comme cela s'est exprimé dans les graffitis, il y a eu une émergence des figures nationales du passé. Donc il y a une réappropriation donc de l'histoire nationale. Là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, quand je parlais d'un travail d'artiste. Donc là, ça montre un peu en fait la préparation. Ils choisissent les murs, ils les repeignent. Là, ils remplissent, en fait, ils prennent des œufs qu'ils remplissent de peinture avant de les jeter. Donc ça, c'est pour la préparation. Et puis là, c'est pour les figures nationales. Donc là, on est en Égypte, Gamal Abdel Nasser. Là, on est alors Farhat Hached, donc le fondateur du syndicat UGTT et donc militant de la cause nationale pour l'indépendance, etc. Et puis, donc ça c'est au niveau national. Et là encore, notre petite citation d'un membre justement du collectif de Al-Kaf qui parle de cette dimension-là. Il dit : nous réapproprions les fêtes nationales qui ont trop longtemps été instrumentalisées par le pouvoir en place. Donc lors de ces mobilisations, comme le 9 avril dernier, donc le 9 avril c'est la fête des martyrs en Tunisie, c'est la commémoration des événements du 9 avril 1938, nous avons coordonné notre action avec divers syndicats et associations dans différentes villes du pays, nous avons fait plusieurs graffitis de martyrs connus dans les rues de la Tunisie. Donc ce n'est vraiment pas, hasardeux, c'est vraiment une démarche totalement consciente. Et pareil, donc, un peu plus bas, il y a aussi des figures historiques pour l'histoire, égyptienne. Donc là, on voit donc il y a Kalthoum, il y a Leila Moulad, la chanteuse. On reste toujours dans les figures historiques nationales. Et puis il y a aussi une identité non seulement nationale, mais aussi quelque part pan-arabe. Toutes les réserves qu'il faut, qui s'est manifesté, notamment donc le soutien, par exemple, il y a le soutien à la Libye. On avait vu à l'époque, par exemple, des graffitis un peu à la Banksy avec le rat, mais avec la tête de Kadhafi. Il y a eu aussi, par exemple, le graffiti que je vais retrouver de Leila Khaled. Donc voilà, avec Intifada. La référence à la cause palestinienne. Ceci pour l'histoire, et je disais voilà, tout à l'heure, donc, en rappelant les origines du graffiti, je disais que c'était un art qui était né aux États-Unis, donc un art occidental à la base, et justement pour rester dans cette notion d'identité, c'est comme s'il fallait justement équilibrer ça ou dire ok, on est ouvert sur le monde, on se réapproprie donc des modes d'expression occidentaux, mais justement en quelque part les adaptant à la culture locale. Donc du coup, dans ces modes d'expression, il va y avoir pas mal de références aussi historiques au niveau artistique. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant en Égypte, les graffitis de l'avenue Mohamed Mahmoud. Donc là, on voit, c'est clairement inspiré des dessins, donc des pyramides donc de l'Égypte ancienne. Il y a ça, il y a aussi une très très belle fresque. Là, c'est la fresque des pleureuses, c'est toujours sur l'avenue Mohamed Mahmoud. C'est une avenue où il y a eu vraiment, pendant des mètres et des mètres, vous pouvez aller, vous pouvez voir vraiment des fresques murales. C'est une avenue justement qui a connu des événements très sanglants. après le départ de Hosni Moubarak. Et donc là, c'est la fresque des pleureuses. Ces femmes représentent en fait les mères des martyrs. Et encore une fois, donc, dans la manière de laver ses pains, le ravillement, etc., on voit clairement une référence au dessin de l'Égypte antique. Autre chose, il y a aussi pour les slogans, notamment de Zouaola, ce que je vous ai lu tout à l'heure, il y a toujours l'utilisation de la rime, comme dans les proverbes populaires, un peu comme une sorte de poésie populaire en fait. Et il y a aussi l'utilisation de la calligraphie, qui est très présente aussi. Donc là, c'est un verset coranique qui est quand même écrit en calligraphie arabe. Donc là, on voit toujours le référent culturel. Donc il y a la réappropriation donc, de cette part d'identité culturelle, et puis des lieux d'histoire et de répression. Il y a eu par exemple pas mal de graffitis qui ont été faits dans des lieux symboliques, notamment en Tunisie, il y a eu des commissariats qui ont été complètement repeints, retagués par les graffeurs. Et toujours en Égypte, il y a aussi un petit muret en fait, qui a été construit devant le ministère de l'Intérieur, que voici, donc qui a pareil été tagué un peu à la Banksy par les graffeurs. Ce que je disais aussi, oui, donc il y a pareil pour les slogans en rime, il y avait aussi une réappropriation du dialecte tunisien et de la langue arabe qui sont aussi très présents dans ces graffitis. Donc j'arrive à la conclusion, ça tombe bien. Donc il y a un ancrage donc clair, évident, revendiqué par les artistes, ancrage dans la société, ancrage, voilà, enfin, on est porte-parole des revendications populaires, etc. Donc ancrage aussi dans la mémoire collective, de cette société, mais aussi avec toujours une revendication d'une certaine marginalité. Et c'est là où je reviens au nom du collectif Al-Kaf. Donc Al-Kaf, en fait, c'est une histoire qui existe à la fois dans l'histoire religieuse musulmane et chrétienne. Ce sont en fait des hommes qui ont échappé, qui pour échapper en fait à la colère d'un roi, se sont cachés dans une caverne et Dieu les a plongés dans un sommet profond qui a duré plusieurs siècles. Et l'un des graffeurs de ce collectif disait « Cette histoire symbolisait pour nous l'esprit de la culture underground qui devait s'inscrire dans une autre temporalité, être décalée par rapport à la société et se démarquer de ce qu'on voit à la surface. » Et c'est donc voilà, cette marginalité qui est toujours revendiquée, notamment avec une remise en question permanente du système, que ce soit l'ancien système, avec les graffitis, donc anti-Moubarak, anti-Ben Ali, etc., le système durant la période de transition, que ce soit les militaires en Égypte, on voit par exemple là un graffiti donc avec un même visage, moitié avec le visage de l'ancien président Moubarak, moitié avec Omar Suleiman, le chef d'état-major égyptien. Pareil en Tunisie, on avait les graffitis avec la tête de Béjar el-Sebsi, qui était le premier ministre de transition en fait, entre février 2011 et octobre de la même année. Avec donc la petite inscription à côté, « La taqa'a fi hubb as-sultan », ne tombez pas amoureux du pouvoir. Et aussi une remise en question du pouvoir démocratiquement élu. C'est qu'ils sont aussi à la marge même des systèmes qui sont reconnus mondialement, institutionnalisés, etc. À la marge aussi de la centralisation, du système centralisé, parce que les actions ne sont pas seulement faites dans la capitale, mais aussi dans d'autres villes, donc des villes aussi qui ont été justement marginalisées, oubliées par les anciens systèmes. Donc bref, ce sont des électrons libres qui refusent en fait toute affiliation, politique ou autre, une sorte de conscience sociale et un garde-fou permanent. Donc dans cet art de rue, l'exercice de cet art de rue, sont des jeunes qui viennent de la rue, qui agissent dans la rue et pour la rue, pour rappeler justement avec cette nouvelle forme d'expression que contrairement à avant, tout n'est plus permis dans l'espace public.